portraits, la galerie des contemporains. Pierre Ditch, collectionneur de jeux de loi.
Comment vous voyez-vous ?
Question bien difficile, donc je cherche un miroir. Mais je pense que je me sens un peu différent. Différent des autres, essentiellement parce que j'ai une double activité, qui est d'une part l'activité professionnelle, relativement classique, et par ailleurs une activité que le hasard a mis sur mon chemin, qui est une activité de collectionneur, qui remplit très largement l'autre partie de ma vie. Et cet aspect est celui qui me passionne le plus, bien sûr. L'activité professionnelle, elle, est relativement classique dans l'édition, la publicité, avec un aspect plutôt technique, scientifique, un peu créatif, ce qui fait son intérêt. L'autre aspect, je crois, est tout de même très, très particulier. Alors, je n'ai pas dit quel était cet autre aspect. Il est ludique tant par le fond que par la forme. Bon, je collectionne les jeux anciens, et plus particulièrement les jeux de parcours. Qui dit jeu de parcours, dit évidemment jeu de loi. C'est la base de cette collection. Il y a derrière cela un autre aspect qui me paraît plus intéressant, qui est une recherche lié particulièrement au jeu de loi. Alors, bon, je suis parti évidemment tout de suite sur cette passion. Le grand intérêt est le fait qu'on ne connaisse pas l'origine de ce jeu. On ne sait pas quand, où, par qui il a pu être conçu. C'est une grande question, passionnante, et ma foi, une grande partie de mon temps est consacrée à essayer de trouver qui a pu concevoir ce jeu. Alors, bien sûr, on peut penser que c'est une chose un peu futile, parce que, à première vue, ce jeu innocent semble simple. Mais, bien sûr, toujours, et les choses les plus simples cachent peut-être les messages les plus pointus, les plus complexes, aussi ce peut-être que l'on a voulu cacher, justement. Bon, c'est la recherche que je fais, elle guide mes lectures. Ça s'avère très difficile. C'est un parcours comme celui du jeu de loi, donc c'est l'aspect dynamique de cette passion, disons. Et cet aspect dynamique est fait de cases, avec des retours en arrière, nombreux, parce qu'il m'arrive souvent, je crois, de partir sur une fausse voie, donc d'être obligé de revenir, de retourner à la case départ, et puis des cases, certaines cases qui sont bénéfiques, qui font avancer. Alors, bien sûr, j'ai une hypothèse concernant l'origine, la conception du jeu. Disons que cette hypothèse, pour le moment, elle est assez intuitive, elle est basée tout de même sur quelques signes qui se trouvent, d'une part, sur certains jeux, sur certaines mentions. Si elle s'avère vraie, je crois qu'elle est très importante, car justement, elle prouvera que le jeu de loi a été le média d'une chose essentielle. Une chose essentielle qui a été occultée, bien sûr, mais je ne peux pas trop en dire.
Dans le désir de collection, est-ce que ne prime pas avant tout le fait que la collection ne s'achève jamais ?
Je crois effectivement que, par opposition au puzzle, où il y a toujours le dernier morceau, la collection présente un intérêt dans la mesure où elle est sans fin, un peu comme la vie.
Est-ce que le jeu de loi a une fin ?
Oui, le jeu de loi a une fin, qui est dite. La case 63, qui est dite porte du jardin de loi, qui est la case à laquelle le joueur gagne. D'ailleurs, cette case 63 dite porte indique qu'il y a derrière la porte une autre case, qui est donc 64. Et là, on arrive à la symbolique des nombres, puisque 63 est 7 fois 9, donc on est arrivé à parcourir les 7 séquences de 9, et on est propulsé à 8 fois 8, donc la plénitude. On remarque d'ailleurs que pour passer de 63 à 64, qu'est-ce qui se passe ? On a fait 1. Alors que lorsqu'on jouait, on avait 2 dés dans la main, on était dans la dualité, tout le temps, et on ne peut jamais faire 1. Donc le fait de gagner au jeu de loi, c'est retrouver l'unité. C'est échapper au dé, c'est échapper à la dualité. Donc il y a bien un aboutissement. Il y a un autre aboutissement virtuel du jeu de loi, qui est la mort, qui est l'aboutissement apparent de la vie, en case 58, donc qui renvoie à la case départ. Donc le message le plus important de ce média est le fait qu'il y a réincarnation, puisque de la case 58 présentée par la mort, on retourne à la case départ pour un nouveau parcours. Donc il va y avoir plusieurs réincarnations, et en fait, gagner, c'est échapper au cycle des réincarnations. Cela explique peut-être la raison pour laquelle, d'ailleurs, le jeu de loi, non pas les premiers jeux de loi, mais certains jeux de loi plus tardifs, ont été dits renouvelés des Grecs. Parce qu'on trouve là une notion néoplatonicienne, enfin philosophique néoplatonicienne. Je ne pense pas que le jeu de loi ait été conçu par des néoplatoniciens. Ça a été une de mes hypothèses, fausses voies. C'est ce qui m'a amené d'ailleurs à étudier les académies néoplatoniciennes italiennes, en particulier à leur naissance. Mais je suis revenu en arrière. Mais je pense que c'est pas là la philosophie foncière du jeu.
Est-ce que vous avez vraiment envie de savoir?
Oui, bien sûr, ce serait l'aboutissement de beaucoup de temps de lecture, de recherche, de retour en arrière. Ça serait arrivé à la case 63. mais si je dois dire que si je ne trouve pas, peut-être que d'autres prendront la suite et eux pourront trouver. Peut-être que des éléments qui sont peut-être actuellement occultés, cachés, verront le jour et aideront. Cela fait partie d'une recherche historique et une recherche dans l'histoire des religions. Donc c'est un domaine où des choses sont encore certainement occultées. Et peut-être le seront-elles moins dans le futur.
Est-ce que vous pensez que le juif errant jouait au jeu de loi?
Oui, mais il est sans espoir, le juif errant, puisqu'il est voué. Pour lui, il semblerait, dans sa symbolique, il semblerait qu'il n'y ait pas de case 53. Il ne retourne pas non plus à la case départ. Il est justement hors de l'espoir quelque part. Mais il y a une chose intéressante, c'est qu'il a connu la notion de chute. C'est-à-dire que s'il erre, c'est parce que il a connu la notion de chute. Un petit peu comme cette notion se retrouve dans le jeu de loi, puisque si nous sommes voués à la dualité, on peut penser que c'est dû à la chute, enfin, au mal, puisque le propre de cette notion de dualité, c'est par opposition à Dieu créant, étant tout le bien, sans lui a été créé le mal. Et d'ailleurs, je crois que cela tient à la place d'une virgule dans l'évangile de Jean, où l'on peut dire que si l'on déplace la virgule, on comprend que sans lui a été créé le mal. C'est la base de la théorie manichéenne et du dualisme.
Est-ce que vous voyez le jeu de loi comme un jeu de stratégie?
On ne peut pas parler de stratégie puisqu'il n'y a pas de libre arbitre. on n'est pas libre. On n'est pas libre jamais, puisque on est soumis au dé. Je crois que c'est cette notion de dualité. Les dés reflètent vraiment le serf-arbitre sous forme de dualité. Donc, par opposition à la stratégie, où apparemment, tout au moins, une notion de libre arbitre existe, puisque face à par exemple, au jeu d'échecs, face à une certaine situation, il semble que l'on puisse choisir de déplacer tel ou tel pion. Au jeu de loi, d'abord, on n'a pas eu un pion, on a une marque qui est la projection de son âme, enfin de soi-même, sur une spirale. Et elle est, le déplacement de son âme, enfin, est soumise au dé, complètement.
N'est-ce pas le seul jeu à support topographique, d'ailleurs, qui ne soit pas un jeu de stratégie ?
Voyons voir, je cherche... Tous les parcours, ils sont très, très, très nombreux. Je cherche des parcours. Oui, il y a tout de même, voyons voir, il y a tout de même des parcours où interviennent d'autres éléments, comme par exemple des questions. Je pense à un jeu relativement récent comme le Trivial Pursuit, où on effectue un parcours, mais le déplacement sur ce parcours est lié à la, entre guillemets, une forme de culture. C'est donc bien, le Trivial Pursuit est un jeu de parcours, mais où intervient une notion de connaissance, n'est-ce pas ? C'est la notion de connaissance qui fait plus ou moins avancer et qui conduira au fait de gagner. Alors que dans le jeu de loi, il y a certains jeux de parcours dérivés du jeu de loi, l'intervention autre que celle des dés n'existe absolument pas.
C'est le plus pur dans l'aléatoire.
C'est le plus pur. Si l'on se penche sur les nombres, enfin, c'est un jeu extraordinaire. Si l'on approfondit un petit peu sa conception au niveau de la symbolique des nombres en particulier, la symbolique des accidents aussi, on est subjugué par l'intelligence et l'esprit des concepteurs du jeu. Car tout est à sa place, et tout se tient selon une logique. Le mot logique me paraît un peu trop froid. Car derrière le jeu, il y a, à mon sens, une foi, une conception très, très chaude. Enfin. Mais on s'aperçoit de cela en se penchant longuement sur les cases, sur la symbolique des nombres. C'est peut-être la raison pour laquelle, d'ailleurs, les joueurs, les enfants, les grands-parents éprouvent tant de plaisir à jouer au jeu de loi sans savoir trop pourquoi. Ils sont tellement heureux de jouer à ce jeu. Je pense qu'il y a là l'inconscient qui entre en jeu, n'est-ce pas ? C'est le cas de le dire.
Photoportrait, la galerie des contemporains. Pierre Ditch, collectionneur de jeux de loi. Production Gérard-Julien Salvi. Réalisation Claire Almerac. Musique Laurie Anderson.